y est, nous y sommes. Bonjour et bienvenue en direct du salon Livre Paris. Lire, point d'exclamation, comme une injonction, une sommation, une exhortation, une préconisation, allez savoir. Cécile et Bernard Pivot nous apostrophent avec un livre confession sur les plaisirs de la lecture. Ils sont les invités de la première partie de La Grande Table. Puis, peut-on faire le procès des écrivains, du tribunal médiatique à leur mise au ban par le milieu éditorial, de Michel Houellebecq à Richard Millet, de Maurice Dantec à Marc-Édouard Nab, quoi de commun entre eux? À partir de 12h55, on met la littérature en examen avec la directrice générale des éditions Léo Cher, qui publie Réprouvé, banni, infréquentable, mais aussi avec la sociologue Gisèle Sapiro, auteure de La responsabilité de l'écrivain, et le critique littéraire Pierre Assouline, membre de l'Académie Goncourt. Lire, oui, mais écoutez d'abord, une invitation à honorer, si vous le souhaitez, tout de suite sur France Culture, ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Lire, point d'exclamation, 21 chapitres et un très beau travail iconographique pour ce livre et pour cette double approche de l'acte de la lecture. Livre publié par Flammarion. Lire, c'est tout d'abord une approche de la lecture, celle de Pivot Père, journaliste et critique littéraire, Figaro littéraire, création aussi du magazine Lire, Le Point, le JDD aujourd'hui, la radio et la télé, animateur du mythique, emblématique apostrophe pendant 15 ans, puis de Bouillon de culture, président aujourd'hui de l'Académie Goncourt. Bernard Pivot, bonjour.
Bonjour.
Et celle de Pivot, fille, journaliste et auteur d'un roman consacré à son fils autiste, comme d'habitude, aux éditions Kelman-Lévy, paru l'an passé. Cécile Pivot, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là avec nous. Un lecteur professionnel et une lectrice amateur et non amatrice, lui compulsif, elle impulsive, lui intransigeant, elle obstinée. En parlant l'un de l'autre, ils échangent dans ces pages indirectement. Aujourd'hui, ils vont donc dialoguer directement avec vous et avec nous. Livre Paris, tout d'abord, pour l'un comme pour l'autre, ou quand le livre tient salon, qu'est-ce que ce lieu signifie pour vous? Cécile Pivot.
Ah, moi, j'achète beaucoup de livres, en fait, à Livre Paris. Pour moi, c'est une bibliothèque XXL, en fait. Donc, je vais essayer de pas en acheter trop quand même, mais je vais en acheter, voilà.
Une bibliothèque librairie.
Absolument, c'est une bibliothèque librairie. Et puis, c'est l'occasion aussi de découvrir des éditeurs qu'on n'a pas l'habitude même de voir dans les librairies, en tout cas pas moi. Des petites maisons d'édition, des livres merveilleux, je trouve, oui.
Bernard Pivot, pour vous, c'est le cauchemar, hein. C'est le risque de croiser des auteurs que vous n'avez pas chroniqués.
Je fuyais tous les salons du livre, toutes les librairies, pour évidemment pour ne pas croiser les auteurs que je n'avais pas invités. Mais là, aujourd'hui, maintenant, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus reposé. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans les salons du livre, c'est qu'ils rassemblent le peuple du livre. Exactement comme vous allez au Parc des Princes, au Stade de France, là, c'est le peuple du sport. Et si vous allez, le salon de l'agriculture, vous avez le salon de la campagne, le peuple de la campagne, des gens qui s'occupent des animaux, le peuple agreste. Et là, ce que j'aime bien, c'est, ça veut pas dire que tout le public est un public intellectuel, mais c'est un public qui aime les livres, qui adore les toucher, les ouvrir et les lire. Donc, j'aime bien me trouver dans cette ambiance-là.
Est-ce que tout le public aime les livres, aime les lire et les toucher, et les sentir aussi parfois? On vous entend pas, hein? Ça veut dire oui, d'accord. Bienvenue à vous, alors. En 2001, le Nouvel Obs titrait Bernard Pivot à votre sujet « Confession du roi Lire », L-I-R-E. Très beau titre qu'on aurait bien aimé avoir inventé. Aujourd'hui, ce royaume qui est le vôtre, celui des livres, vous le partagez non pas en trois, mais avec l'une de vos filles, Cécile, sans condition, contrairement au vrai roi Lire de Shakespeare.
C'est-à-dire qu'on aime les livres tous les deux, mais on ne se ressemble pas. Moi, j'ai toujours été un lecteur qui, depuis mes débuts, qui était professionnellement tenu de lire les livres avec plaisir, mais qui gagnait sa vie de cette façon. Est-ce que ma fille, pas du tout, elle a jamais été rétribuée pour lire des livres, et donc elle lit ça par plaisir, tout simplement.
Mais il n'y a pas eu de bataille d'héritage avec vos autres enfants? C'est Pivot qui avait porté le plus d'intérêt aux livres parmi... Vous avez combien d'enfants?
Deux filles. C'est la cadette, a toujours adoré les livres. L'aînée, je ne vais pas dire que l'aînée n'aime pas les lire, les livres, elle lit aussi, mais avec moins de passion, moins de boulimie que Cécile.
Cécile Pivot, vous pouvez, comme Cordélia dans Le Roi Lire, lui préférer le silence, si néanmoins vous deviez aujourd'hui porter une sorte de... parole d'amour devant tout le monde à votre père sur ce partage du royaume de la lecture qu'il a opéré avec vous, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Qu'est-ce que je lui dirais ? Je pense que les livres, c'est ce qui nous a le plus rapprochés, en fait. Toujours ce qui nous rapproche, c'est la littérature. C'est là qu'on a nos conversations. On parle tout le temps de livres. À chaque fois qu'on se voit, il va me dire « Est-ce que tu as lu ce livre-là » Et moi, je lui dis « Au fait, est-ce que tu as lu ça ?» Donc, c'est une conversation qui a démarré il y a vraiment très, très longtemps et qui continue tout le temps, à chaque fois qu'on se voit.
Une complicité autour du livre, mais ça n'a pas toujours été si simple. Vous le racontez aussi, Cécile Pivot, une enfance baignée dans les livres. C'était aussi pour votre père une activité chronophage, une activité professionnelle, on va y revenir. Pas de jalousie à l'égard de ceux qui vous ont quand même aussi un peu privé de lui au quotidien et de tous ceux qui dévoraient tout l'espace de la maison, ces livres.
Non, pas du tout. Oui, c'est ce que j'écris dans le livre. C'est-à-dire que on a eu, ma sœur et moi, une enfance assez particulière qui était... On avait un père qui travaillait à la maison, donc physiquement qui était là, mais en fait qui n'était pas là. C'est-à-dire qu'il était tout le temps plongé dans ses livres, et même quand il n'avait pas un livre en fait à la main, il pensait à son émission. Donc il était absent, totalement absent. On n'a pas du tout une enfance malheureuse. Hein. C'était une enfance particulière. Et après. Ça a été formidable quand même cette enfance, même si au départ, oui, on en a souffert, je pense. Moi, en tout cas, j'en ai souffert, bien sûr, parce qu'on avait aussi une mère qui travaillait beaucoup, hein, donc c'était assez étrange. Et je ne sais plus votre question. Et donc, oui, non, pas du tout. Moi, juste au contraire, je me suis réfugiée dans les livres. J'ai jamais pensé à être en colère contre les livres.
Pas de jalousie et pas de complexe non plus, parce que dans cette forêt de livres, dans cette piscine de mots, vous avez choisi vous aussi de faire un jour le grand saut. Vous auriez pu décider que les livres c'était votre père et que vous, ça aurait pu être la musique ou toute autre chose. Vous ne vous êtes ni laissé impressionner par leur nombre dans la maison, ni par la notoriété du père qui était grand lecteur. Mais c'est pourtant une réalité, Bernard Pivot. On peut être soi-même un passionné de livres, un grand lecteur, sans pour autant transmettre ça à ses enfants. C'est la difficile question de la transmission aussi, de ce plaisir de lecture.
Alors, d'abord, on peut se poser la question, existe-t-il un gène de la lecture ? Et si ce gène est-il transmettre ? Est-ce qu'on peut le transmettre à ses enfants ? Moi, j'ai l'impression que j'ai transmis un gène de la lecture parce que Cécile était une adolescente pas facile à vivre, assez contestataire, assez révoltée. Or, elle n'a jamais contesté à travers les livres. Au contraire, comme elle l'a expliqué, elle se réfugiait dans les livres. Elle échappait à l'autorité parentale, elle échappait même aux obligations familiales grâce aux livres. Et elle raconte même que on pouvait lui pardonner des notes qui n'étaient pas aussi bonnes que celles qu'on pouvait espérer au collège et au lycée, simplement parce qu'elle avait cette passion pour la lecture. Finalement, on pardonne beaucoup de choses à des enfants qui lisent.
Oui, on pardonne beaucoup, je suis d'accord. Quand on est dans des familles qui aiment la lecture, qui respectent la lecture, en fait, on a vraiment, et qu'on lit, on pardonne tout. On n'a pas besoin de mettre la table, on rapporte des mauvaises notes, mais quand même, on lit toujours. Il y a toujours ça, il y a toujours, oui, mais elle lit. Et moi, j'étais vraiment pas une bonne élève, j'aimais pas ça, je séchais même les cours, donc j'étais vraiment pas facile, hein. Mais je lisais.
Et lire, vous le racontez l'un et l'autre, ça reste un acte austère malgré tout. Vous en faites la description, Bernard Pivot, dans les moments où vous lisiez, il n'y avait pas de volute de fumée avec un grand cigare, un verre de vin toujours à vous attendre. C'est pas une activité de salon qui permet de discuter, de partager. C'est vraiment quelque chose de monastique presque, d'austère
pour vous. Oui, c'est se retirer. Alors, la lecture est à la fois un plaisir égoïste et altruiste. Égoïste parce que on prend un livre, on se retire du monde, on se replie sur soi-même, et puis d'un seul coup, avec plaisir, on se plonge dans un ouvrage, que ce soit un roman, la poésie ou un essai, etc. Et puis, en même temps, c'est égoïste parce que on vit avec d'autres personnages, la famille en est exclue, et puis on accumule des choses, des connaissances qui nourrissent ce qu'on appelle la culture générale. Mais en même temps, c'est un plaisir altruiste parce que lire, c'est prendre des nouvelles des autres. C'est entrer dans le monde par d'autres portes, c'est se frotter à des personnages et à des idées dont nous n'avions même pas connaissance une heure auparavant. Donc, ce que j'aime beaucoup dans la lecture, c'est à la fois cette activité égoïste et altruiste.
Ce que vous écrivez très bien, d'ailleurs, Cécile Pivot, il y a d'abord dans le livre un dialogue de soi à soi, mais il y a aussi dans le livre quelque chose qui vous donne le goût des autres. Ces livres, ces perturbateurs existentiels, écrivez-vous Bernard Pivot dans Lire, cet échange entre vous qui paraît chez Flammarion. C'est intéressant de revenir sur ce point parce qu'il y a deux approches possibles de la littérature ou en tout cas de ces grands livres qui nous ont marqués. Est-ce que vous parleriez plutôt l'un et l'autre de livres coup de poing, ceux que vous affectionnez, ceux qui, dans l'immédiat, vous ont changé, ou plutôt vous leur préférez ces livres qui, insidieusement, innocemment peut-être, ont laissé des traces en vous qui vous ont changé au fil des lectures?
Moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux sortes de livres. Il y a les livres qui instantanément vous bouleversent, qui peuvent être terriblement difficiles à lire et qui vous bouleversent. Et puis, il y a des livres qui prennent leur temps. Ce sont des livres qui prennent leur temps et puis vous allez tout d'un coup y penser. Il y a une image, il y a une parole, quelque chose qui va vous faire penser à ce livre. Vous allez vous dire, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et puis, vous allez vous rappeler de ce livre 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Donc, je pense qu'il y a les deux. Et c'est ça qui est formidable dans la littérature. Oui.
Et pour vous citer, Cécile Pivot, des livres comme des petits cailloux semés pour retrouver votre chemin. Voilà l'importance, toute l'importance monumentale que vous attribuez à la littérature et à la lecture. Et vous dites, pourquoi, moi qui ne ris pas facilement, ai-je connu de telles crises de fou rire à la lecture de Babylone de Yasmina Reza? Pourquoi ai-je tant pleuré en lisant Indignation de Philip Roth? Pourquoi Marcus Messner, ce jeune homme de 19 ans, m'a-t-il bouleversé à ce point? Il ne manquait pourtant pas dans ma bibliothèque de héros au destin tragique. Pourquoi lui et pas un autre?
Oui, parce qu'il y a vraiment des livres qui me prennent au dépourvu. C'est-à-dire que, je sais pas... Enfin, si après je réfléchis, je sais un peu pourquoi, mais c'est vrai qu'Yasmina Reza, c'est un livre Babylone qui m'a fait pleurer, mais j'étais vraiment pliée de rire dans mon lit. Et il y a des livres où tout d'un coup, oui, je vais vraiment, je pleure, et c'est rare, hein, c'est vraiment très rare, mais pourquoi? Donc oui, j'aime les livres aussi qui me prennent au dépourvu, que ce soit dans le rire ou le chagrin. Vraiment, je trouve ça, je trouve ça formidable. Et on apprend des choses sur soi-même. On se pose des questions, pourquoi j'ai réagi comme ça? Et on avance dans la vie comme ainsi.
Et vous, Bernard Pivot, vous montrez, vous écrivez cet autre visage de la littérature qui fait trace. Si l'on comprend mieux le monde en lisant, la lecture peut aussi le complexifier, le rendre plus énigmatique. Il y a des livres qui décoiffent, qui dérangent, dont on sort troublé et même chamboulé. Ce sont peut-être les meilleurs puisqu'ils nous atteignent au plus profond et qu'ils modifient nos façons de voir et de ressentir. Ils nous poussent à des examens de conscience. On aimerait un titre, oui, un auteur ou des titres des auteurs livres qui vous ont décoiffé.
Oui, alors, moi, il y a des livres qui me sont décoiffés d'abord par ce qui est raconté. C'est par exemple, Capoute de Malaparte. Quand vous lisez Capoute de Malaparte, vous êtes complètement effaré. Ou bien Les Bienveillantes de... ou bien tout simplement Au voyage au bout de la nuit. Mais moi, ce qui m'a souvent frappé, qui m'a un peu changé, c'est l'écriture. C'était moins ce qui était raconté dans le livre que la manière dont c'était raconté. Par exemple, quand j'ai lu, je me rappelle, j'étais assez jeune encore, les pamphlets de Paul-Louis Courier, qui malheureusement n'est plus lu aujourd'hui, bien qu'il y ait un livre de la Pléiade qui lui soit entièrement consacré, j'ai été sidéré par la qualité exceptionnelle de cette écriture, par l'ironie, la fantaisie. J'étais subjugué. Quand j'ai lu les premiers livres d'Antoine Blondin, là aussi, j'ai été absolument ravi de découvrir un style dont j'imaginais pas le charme et la profondeur. Donc souvent, et alors un souvenir de jeunesse, les fables de La Fontaine, j'ai toujours été un admirateur inconditionnel de La Fontaine, pas seulement par la morale des fables, qui après tout est assez évidente, mais l'extraordinaire écriture, le style inouï de La Fontaine.
La Fontaine que vous présentez en garde-chasse, Bernard Pivot, et vous le dites aussi entre 6 et 10 ans, vous avez appris à lire à partir du dictionnaire et à partir des fables de La Fontaine, parce que c'était la guerre. Votre mère avait fui en apportant avec elle le minimum, les livres, ça pèse lourd. Et il y avait ces deux ouvrages-là qui vous ont fait entrer en lecture. Les fables de La Fontaine, c'est une école buissonnière aussi pour Éric Orsenna. Il en a fait un livre très récemment chez Stock. Il dit que lui, il écrit pour ralentir. Et vous, vous lisez pourquoi ? Pour arrêter le temps aussi ?
Oh non, ça serait trop prétentieux de dire c'est pour arrêter le temps. Moi, simplement, je lis un livre, d'abord par nécessité trop souvent, mais quand c'est pas le plaisir, c'est simplement s'évader, c'est quitter sa peau, c'est quitter la famille, c'est quitter les amis, mais en même temps aller chez les autres, c'est toujours la même chose. Il y a cette volonté de curiosité qui vous anime simplement en ouvrant le livre, mais la curiosité qui se poursuit après avec les personnages dont vous suivez les aventures dans un roman.
À propos d'Éric Orsenna, il y a un rapport qui vient d'être rendu, signé de sa main, sur les bibliothèques, rapport rendu au gouvernement, où il demande, entre autres, l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques. On évoquait ensemble en ouverture l'importance de ce type de lieu, comme le salon Livre Paris, mais aussi comme les librairies dans lesquelles on peut toucher, sentir, ouvrir les livres. Et on n'a pas encore parlé ou peu des bibliothèques. Vous mettez d'ailleurs en photo dans ce livre celle de la salle de lecture de la BNF, restaurée, très très bel endroit. On pense bien sûr aussi à la New York Public Library de Frédéric Wiseman, dont il a fait un long et très beau documentaire, où on voit cette bibliothèque qui est bien plus qu'un lieu qui offre ou présente des livres. C'est aussi un lieu d'échange, un lieu de sociabilité. À ce sujet, écoutez ce qu'en dit un autre maître S-lecture, à vous d'ailleurs, Cécile Pivot, c'est l'Argentin Alberto Manguel, qui a notamment écrit « Éloge de la lecture » ou « Parcours de la bibliothèque idéale ».
Une bibliothèque est la mémoire d'une société, est aussi l'identité d'une société. Donc, elle ne peut pas ne pas être politique. Elle appartient à la police, dans le sens grec du mot. Et c'est un lieu où, dans une atmosphère de mensonges et des fausses réalités, comme dans laquelle nous vivons maintenant, la bibliothèque devient le lieu d'évidence. Nous mettons en évidence les documents qui servent aux lecteurs à porter leur propre jugement sur des faits et de pouvoir constater si un fait est vrai ou non. C'est un lieu de la possibilité du savoir. Sénèque disait que l'accumulation de savoir n'est pas le savoir. Et donc, un lieu comme une bibliothèque dépend pour ses mérites de l'usage que nous en faisons. Un livre, une bibliothèque, est un espace neutre finalement, et c'est seulement quand nous ouvrons le livre et que nous lisons, nous donnons corps à ces mots et nous leur donnons un sens qui n'est pas peut-être le bon sens, peut-être le bon sens n'existe pas.
C'est beau ce qu'il dit des bibliothèques, Alberto Manguel, et on peut dire pareil des livres, oui, ce sont des lieux de tous les possibles en termes de savoir, Bernard Pivot.
Pardon, mais j'ai un bon souvenir parce que j'ai fait un film sur la bibliothèque d'Alberto Manguel que j'avais été voir dans le Poitou où il avait avant qu'il déménage. C'était absolument sidérant sa bibliothèque. Et je pense que lire la bibliothèque d'Alberto Manguel, c'était lire dans le cœur, dans les yeux, dans l'âme d'Alberto Manguel.
Elle est composée comment, votre bibliothèque à vous, Bernard
Alors,
Pivot?
Moi, c'est une bibliothèque de travail. C'est une bibliothèque à laquelle il faut retrouver très très vite un livre dont on a besoin. Donc il y a le mur de la Pléiade, le mur des dictionnaires, des livres sur le sport ou le cinéma, mais la littérature générale, c'est classé par ordre alphabétique pour retrouver très vite, ce qui n'est pas le cas chez Cécile.
Et vous jetez des livres ?
Non, je ne jette jamais les livres, mais je les donne, j'en donne. Beaucoup.
Oui. Donc vous les transmettez.
Ben oui.
C'est sacrilège de jeter un livre.
Enfin, moi, je n'aime pas ça. Sacrilège est peut-être un mot un peu fort, mais je n'aime pas jeter un livre. Non, j'aime pas du tout. Je me dis toujours, il y a quelqu'un qui peut trouver son bénéfice dans la lecture de ce livre, même si moi je n'aime pas ce livre, même si je le trouve stupide ou vulgaire. Mais après tout, mon jugement, d'autres peuvent en avoir un autre et trouver du profit à lire cet ouvrage.
Alors, j'aimerais en revenir à vos différentes approches amateurs, professionnelles de la lecture que vous racontez bien dans ce livre, Lire, qui paraît chez Flammarion. Vous racontez que pour vous, Bernard Pivot, la lecture, c'était d'abord un métier. Vous avez toujours pris des notes en lisant, pris des notes pour vos articles, pour vos entretiens, pour vos émissions, pratiqué des recensions. C'est une discipline que vous présentez, et on l'évoquait en lecteur austère, mais c'est aussi un apprentissage. Comment vous avez fait pour apprendre à lire vite et bien, apprendre à refermer un livre qui ne vous parle pas tout de suite pour passer au prochain, à réduire les piles sans prendre le risque de passer à côté d'un très bon livre?
Non, mais d'abord, on passe à côté de très bons livres. Il faut accepter ces erreurs. Il y a des ouvrages dont j'ai pas vu l'importance au fil des années. Imaginez, pendant 30 ans d'émissions à la télévision, fatalement, j'ai raté quelques ouvrages. Mais en même temps, il y a ce goût de la lecture, trouver le plaisir de lire en se trompant, en changeant d'avis, d'ailleurs, des fois. Parfois, je reprends des livres dont j'avais invité les auteurs il y a 20 ans, puis je me dis, au fond, est-ce que ce livre-là méritait d'être porté à l'attention des téléspectateurs? Peut-être pas. Donc il faut être très modeste, vous savez, très 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 modeste dans le choix des livres. Moi, je me dis toujours qu'il y a une part de chance, il y a une part de goût personnel, il y a une part de service public. Quand vous faites une émission, vous faites une émission de service public sur France Culture. Donc il faut toujours avoir à l'esprit cette idée qu'on rend service au public. Donc parfois, on peut inviter un auteur dont on n'apprécie pas obligatoirement l'ouvrage, mais dont on sait qu'il peut avoir rencontré un écho dans le public qui va vous écouter.
Mais vous imaginez bien que ma question n'était pas gratuite ni anodine. Vous n'avez pas développé une méthode pivot, formalisé une méthode pivot? Vous ne voulez pas me dire comment faire?
Non, écrire vite. Non, vous avez dit « je lis vite ». Mais non, je ne l'ai jamais lu vite. Ah. Mais non, pas du tout. Je lis en prenant des notes, etc. Donc, fatalement, j'arrête ma lecture pour prendre des notes à la fin de l'ouvrage. Donc, tout ça, c'est lent, c'est méthodique, c'est un peu besogneux, même. C'est un peu besogneux.
C'est pour ça que vous ne le voyez jamais.
Non, parce qu'il c'est vrai qu'il lisait les livres de la première à la dernière ligne et que les gens ne le croyaient pas. Et je me dis, mais en fait, les gens ne le croient toujours pas.
Non, c'est vrai.
Parce qu'on en revient toujours à cette question. Et moi, c'est ça que je découvre. Je me dis, moi, j'ai toujours eu cette question. Dès que je sortais de chez moi, je disais, Cécile Pivot. Pivot, ah, mais ton père, hein, il lit en diagonale, comment il lit? Non, il lisait vraiment de la première à la dernière ligne.
Et vous racontez-vous, Cécile Pivot, et c'est très beau aussi, cet acharnement que vous avez eu à essayer de transmettre votre goût, votre passion pour la lecture à votre fils, Antoine, autiste. Je vous cite, « Les livres n'ont pas sauvé mon fils, autiste. Je me suis acharnée sur lui durant des années pour qu'il apprenne à lire, persuadée que la vie lui ouvrirait alors de nouveaux horizons. La lecture te transporterait dans un monde imaginaire pourvu de nombreuses cachettes où te blottir, loin de nous, de nos codes incompréhensibles. Tu traverserais les frontières sans quitter ta forteresse. » Ai-je d'ailleurs écrit, comme dans votre livre, comme d'habitude. Je me suis trompée dans les grandes largeurs.
Oui, c'est vrai.
C'est très beau.
Je me suis trompée, c'était vraiment, je me suis vraiment acharnée, hein, c'est le mot juste, parce que je me suis dit qu'il allait être comme moi, c'est-à-dire qu'une fois qu'il saurait lire, ce serait un monde à part pour lui, et quoi qu'il arrive, il aurait ça dans sa vie, il aurait ce bagage-là, ce cadeau-là, il aurait la lecture. Et en fait, non, parce que, alors il y avait déjà le problème de savoir lire. Et pour lui, déchiffrer les mots, déjà, c'est compliqué. Donc, quand vous passez du temps pour déchiffrer chaque mot, l'histoire, vous voyez, le début de la phrase, il est déjà loin. Et puis, et ça, c'est vraiment grâce à mes lectures sur l'autisme, les autistes, en fait, tout est au même niveau. Le détail comme le fait essentiel. Donc, l'histoire, si vous voulez, tout est au même niveau. Alors, je lui demandais, par exemple, mais Antoine, de ce chapitre-là, qu'est-ce qui était important? Et il allait me sortir un détail et je me disais, mais c'est pas possible. Et non, la lecture n'a pas du tout le même sens pour lui. Donc non, c'était
Il faut parfois savoir. C'est un échec. Oui, il faut peut-être parfois.
En tout cas,
mais c'est pourquoi ce serait un échec?
Parce que, enfin, pour moi, oui, ça a été quand même un peu un échec. Enfin, je me suis dit que ça allait le. Il aurait toujours ça, voilà. Mais il n'a pas ça.
Il a autre chose. Oui, il a autre chose. Bon, ben ça, c'est à lire donc dans cet autre livre que vous avez écrit, comme d'habitude, et Cécile Pivot, à propos de transmission, à propos de méthode de transmission, il y en a un qui en a développé une, et vous le citez, l'un et l'autre, c'est Daniel Pénac, avec, dans cet ouvrage, Comme un roman, l'auteur de la saga Malocène. Il, lui, a beaucoup insisté sur l'importance de la lecture à voix haute. Aussi, pour aider à formaliser une pensée, la lecture est un acte solitaire, c'est un acte silencieux, mais peut-être on peut apprendre à donner un sens aux mots en les extériorisant. Et il dit, quand un élève vous dit qu'il n'aime pas lire, c'est ce qu'il racontait dans les Matins de France Culture, il ne sait pas ce qu'il dit. Si vous le croyez, il est foutu, et vous aussi comme professeur. Comme quoi, parfois, ça vaut aussi le coup de s'obstiner. Bernard Pivot.
Oui, mais la lecture à haute voix, ça me paraît quelque chose d'important. D'ailleurs, elle se développe en France. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont accueillis dans les librairies ou dans les théâtres pour qu'ils lisent leurs œuvres. Donc, oui, bien sûr. Et en plus de ça, moi, je vais 4 ou 5 fois par mois dans des théâtres en province pour lire un texte que j'ai écrit qui s'appelle « Au secours, les mots m'ont mangé ». Donc, je trouve un plaisir extraordinaire à lire. Je dis, je ne suis pas tout à fait un comédien, mais je suis un lecteur agité pour transmettre des choses que j'ai écrites à un certain moment et qui font rire les gens, bien entendu. Et sur le tard de ma vie, j'ai découvert le plaisir de faire rire les gens. Ça, c'est un plaisir incroyable.
Alors, lire pour le plaisir, lire comme un privilège, lire est aussi un acte politique, et lire, enfin, pour pouvoir simplement savourer la vie sous la plume des autres. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Cécile Pivot.
Merci
Bernard Pivot. Je fais comme vous, je montre la couverture du livre, même si on n'est pas à la télé. Merci beaucoup d'être passé là. Je vous propose qu'on se quitte avec quelques notes de Le chien noir du chagrin, de père en fille, elle aussi. C'est Marie Modiano, elle chante et écrit tous les textes de ce nouvel album « Pauvre chanson ».
Jusqu'au bas où il n'y avait jamais personne, un chien qu'on appelait le chien noir du chagrin, le chien noir du chagrin.
Elle chante et écrit tous les textes donc de ce nouvel album, Pauvre chanson, sauf un, celui-ci, celui dont vous venez d'entendre cet extrait, où elle reprend les mots de son Nobel de père, Patrick Modiano, l'auteur de Dora Bruder ou d'un Pédigré. Elle sera en concert au Café de la Danse, Marie Modiano, à Paris, le 16 mai prochain. Merci encore beaucoup à Cécile Pivot et Bernard Pivot d'être passés dans cette première partie de la Grande Table. On se retrouve à partir de 12h55 pour la deuxième partie, avec une grande table ronde aujourd'hui. Pour l'heure, il est midi et demi sur France Culture.